Ne serait-il pas temps que nous fassions comme les frères de Bérée? Vous savez, ces Juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et vous savez pourquoi ils avaient des sentiments plus nobles? C'est parce qu'ils examinaient tous les jours les Écritures afin de vérifier si ce qu'on leur enseignait était exact. Quand avez-vous fait cela vous-même la dernière fois? L'avez-vous déjà fait juste une fois? Ces nobles sentiments ont, semblerait-il, complètement disparu de l'Église. Il semblerait que plus personne ne vérifie jamais les Écritures, et encore moins tous les jours. Pourtant, l'Église de Dieu, la communauté du Christ Jésus, a besoin plus que jamais de se refaire gardienne de la vérité, parce que malheureusement, au cours des siècles, la vigilance ayant disparu, elle a laissé la place au compromis, à l'interprétation douteuse, ainsi qu'à de nombreuses fausses doctrines. Il est temps que nous reprenions notre Bible dans nos mains pour la lire, et que nous la lisions, et que nous portions attention à ce qui est écrit plus que ce que l'on nous a amené à croire est écrit. Et mon but, c'est de vous aider dans ça, précisément en faisant ce que très peu font aujourd'hui, en vous donnant de l'enseignement et en vous montrant exactement ce qui est écrit, au lieu de seulement vous dire ce que la Bible dit, tout en évitant de vous le prouver comme le font la majorité. Vous allez constater, la différence est énorme. Salut, je suis André pour Vox Eloi. Aujourd'hui, j'aimerais parler des deux saluts. Eh oui, c'est ça mon titre. Donc, voici les deux saluts. Ah, je le sais exactement ce que vous pensez. Attendez. Allez dans Genèse chapitre 22, et nous allons lire les versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et il dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Et maintenant, reportons-nous dans l'Épître aux Hébreux, au verset 11, et nous lisons le verset 35. D'autres furent livrés au tourment, mais n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Certains pourraient-ils être surpris, voire choqués de constater que selon la Bible, il semble qu'il y ait deux saluts. Et là, nous entendons tous dans notre tête le verset qu'on pourrait citer d'emblée pour nous prouver tort, le verset dans Actes chapitre 4, verset 12, qui parle du Messie, Yeshua, le Christ Jésus. Et ça dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Et voilà. Alors non, nous le savions ça aussi. Mais entendons-nous bien, ici, je ne fais pas allusion à un autre salut, ou qu'il puisse y avoir un autre accès au salut que par le Messie Yeshua, le Christ Jésus. Les deux saluts dont je parle ne peuvent être obtenus que par lui. Ah, on s'entend. La Bible enseigne, en parlant de ceux qui seront sauvés, que de l'humanité est divisée dans deux grandes catégories, où chacun recevra une récompense différente. L'une de ces récompenses est terrestre et l'autre est céleste. Nous allons voir cela. Le salut, la récompense générale. Et à l'origine, ce qui est offert est une récompense terrestre. une vie éternelle sur terre. Adam n'a jamais reçu la promesse d'une vie céleste en perspective. Jamais il ne lui a été promis comme futur une vie de nature spirituelle au ciel. Au contraire, Adam a été créé pour vivre éternellement sur la terre. En examinant attentivement Genèse chapitre 3, verset 22, nous ne pouvons que constater clairement que l'homme avait toujours la capacité d'avancer sa main, de prendre aussi de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Il avait déjà été prévu que l'homme vive éternellement, oui, mais où? Sur la terre, de toute évidence. Dieu a dit à Adam de multiplier et remplir la terre d'une race parfaite d'êtres humains, comme il l'était au départ. Mais pour poursuivre cette voie avec tous les privilèges de l'Éden, l'obéissance à Dieu, son Père créateur, était requise. Cependant, l'alternative était assurément la mort, et non pas une continuation de sa vie sans fin en tant qu'être spirituel, soit au ciel ou en enfer. Et c'est sans embâge que, dans la Genèse, chapitre 2, verset 17, Elohim a dit clairement à Adam que s'il désobéissait, il mourrait sûrement. Adam a désobéi, et il n'y a pas de doute sur la sentence prononcée sur lui, que c'est « à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Genèse chapitre 3, verset 19. Adam est-il au ciel ou en enfer? Ni l'un ni l'autre. Il est mort et il est retourné dans la terre d'où il a été pris et il est maintenant en poussière. Et ce sera la même chose pour chacun d'entre nous, tout comme ceux de nos proches qui sont déjà endormis. À cause du péché d'Adam, toute l'humanité est née pécheresse et a hérité de la mort. Paul l'explique aux Romains, en chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Bien que la sentence de mort était entièrement justifiée, le grand amour du Père avait déjà prévu un merveilleux plan de salut, afin que l'humanité puisse être sauvée de, ou échapper à, cette condamnation à mort, en mettant en place le moyen que la vie sur terre puisse être restaurée par toute l'œuvre du Christ, celle qu'Adam a connue avant de pécher. C'est ce que le Tout-Puissant a conçu à l'origine comme étant le destin éternel de tous ceux qui obéiraient à sa parole. Sa parole qui est en fait sa voie de vie qu'il nous donne, la voie dans laquelle il nous invite et nous fait emprunter, car toute autre voie mène à la mort. Et ainsi nous lisons en Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, hein, le Christ Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » C'est donc dire que nous pouvons périr. Mais que nous ne périssions pas, donc, mais que nous ayons la vie éternelle. Et donc, nous n'avons pas déjà la vie éternelle. Nous voyons donc par ce passage que ce qui a été perdu, c'est la vie, notre vie sur terre. Et c'est ce qui fait que nous voyons ici dans Jean 3,16 qu'il est maintenant possible de périr. Mais notre Père Céleste a déjà réglé ça, car il a déjà tout prévu. Et pour que l'homme puisse à nouveau y vivre éternellement, cette vie sur terre qui doit être restaurée. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 11, que « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Le Messie, Jésus, est venu pour s'offrir en rançon pour Adam et sa descendance, l'humanité, afin que tous nous puissions être sauvés de la mort finale et éternelle, retournés à la poussière dans la terre. C'est définitivement ça, le salut, que l'on peut certainement voir un peu plus clairement maintenant. C'est ça le moyen prévu pour sauver le monde, la race humaine, les enfants de leur Père Créateur Céleste. Quand on considère toute la Bible, il ne peut exister d'autres conclusions possibles à chacun de faire diligence, vérifier et réprouver afin que tout ce qui peut être encore questionné et mis en doute puisse être amené à la lumière. Dans la terre et en poussière, c'est là où nous finissons tous. Tout part de la Genèse et on ne fera pas mentir Dieu sur aucun sujet couvert dans ce livre. Mais le plan parfait avait déjà prévu que le Messie, Yahshua, Christ Jésus, viendrait pour accomplir à notre place ce qui est prescrit par la loi pour l'avoir transgressé. Quelle est donc cette prescription? Quelle est donc la peine encourue par tous pour avoir transgressé la loi? C'est la même qu'Adam pour avoir désobéi. Tu mourras certainement. Mais l'apôtre Jean nous donne une définition claire du péché, sans ambiguïté, c'est la transgression de la loi. C'est un peu plus clair, hein? 1 Jean chapitre 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire, la récompense du péché, c'est la mort. » Mais on continue le verset et la solution, le moyen prévu pour régler ça, malgré tout, c'est le don gratuit de Dieu et c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur, encore une fois, c'est parce que nous ne l'avons pas encore. Mais nous allons y accéder grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. On ne peut imaginer plus clair pour conclure que c'est bel et bien de la mort que Dieu veut nous sauver et à l'évidence par tous les moyens possibles à sa disposition. Quel grand amour, quelle grande sagesse, quel plan merveilleux! Et voilà qu'à cette étape, nous pouvons maintenant comprendre que c'est donc comme ça que le Christ accomplit la loi, sans pour autant l'abolir, ce que le texte ne dit pas. Quand il dit, en Matthieu 5, 17, par exemple, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Ça, c'est l'Ancien Testament qu'on dit aujourd'hui. Là. La loi et les prophètes, c'est la Torah et les livres qui viennent avec. « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » « Je suis venu non pour abolir. » Dans mon entendement, ce qui n'est pas aboli est toujours en vigueur. Même si on tente de diminuer cette réalité en mettant plus en évidence le mot « accomplir », comme si cela effaçait le fait que la loi n'est pas abolie par le Messie d'Élohim, point. En rajoute-t-il pour bien appuyer et faire certain que ce soit accompli? Continuons au verset 18, le verset suivant, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce qu'il nous faut comprendre, donc, c'est que le Christ, c'est ce qu'il accomplit, c'est la punition, la partie pénale prévue par la loi à notre place. Il ne l'abolit pas. Il l'accomplit, voilà. Il est mort sans mériter cette punition, malgré que sa vie était parfaite, ce qui implique que le Messie d'Élohim n'a jamais transgressé la loi. Comme certains prétendent, c'est un blasphème. C'est lui l'agneau venu de Dieu qui ôte le péché du monde, en donnant son corps et son sang en sacrifice et un bref instant de sa vie, le temps de 3 jours et 3 nuits, un sacrifice innocent de toute transgression, qui a tout de même traversé d'indescriptibles souffrances en compensation pour la vie perdue d'Adam. Ainsi, c'est par cet acte qu'il accomplit ce que Dieu le Père avait prévu dans son plan de salut. Le Messie a racheté ou sauvé Adam et toute sa race de la mort finale et éternelle en nous donnant la possibilité d'y échapper. De ce fait, la Bible montre que malgré la transgression d'Adam, Dieu offre à tous, à toute l'humanité, une opportunité égale de salut qui est d'échapper à la mort éternelle. Alors si jamais vous vous êtes déjà dit, quand sait-on, peut-être que moi j'en aurais pas mangé de ce fruit. La question se pose maintenant, en mangez-vous ou en avez-vous mangé de ce fruit? Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 et 22. Je répète, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, connaissez-vous quelqu'un qui ne meurt pas? Et de même aussi, tous revivront en Christ. Avez-vous compris ça? Tous revivront, c'est certain. La Bible nous donne des passages qui stipulent clairement que les disciples croient en la résurrection des morts. Et par cela, nous savons donc que chaque membre de la race d'Adam sera ramené à la vie après la mort. Le Tout-Puissant, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, veut que tous les hommes soient sauvés de la mort et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous ceux qui auront été disposés à leur appel et obéissance seront restaurés dans la vie sur terre. C'est là où se produira enfin les temps de restitution de toutes choses dont Yahvé, l'Éternel, a parlé par la bouche de tous les saints prophètes depuis le commencement du monde. Actes chapitre 3, verset 21. Le salut général ne change pas la nature terrestre de l'homme, ça ne le transporte pas au ciel. On voit dans l'Écriture que ceux qui atteignent le salut se construiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignobles et mangeront leurs fruits. Ésaïe chapitre 65, verset 21. Et cela ne décrit certes pas de vivre dans un état spirituel et céleste. Il y a un plus grand ou un meilleur salut. Et oui, en plus du salut général, il existe un autre salut plus grand. Oh, et oui, examinons encore une fois ce que dit l'Écriture. On n'invente rien, là. En cette ère présente, ce grand salut plus grand, il est offert seulement à un nombre limité. Ceux qui acceptent et participent à ce plus grand salut connaîtront un changement de leur nature, car de terrestres qu'ils étaient, ils deviendront célestes. Ils mourront en tant qu'humains et ressusciteront à la nature divine, glorieuse et immortelle. Et Paul l'explique aux Corinthiens, dans la première épître, au chapitre 15, versets 49, 49 à 51 et 53. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais tous nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Encore une fois, et ça doit être, c'est un processus qui doit encore venir. L'immortalité n'est pas là encore. C'est ce qui est écrit, c'est ce qu'il dit. Ce sont ceux à qui Yahshua fait référence en Jean chapitre 14, versets 2 et 3, quand il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place et je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Les deux saluts également offrent une délivrance du péché et de la mort grâce au sacrifice d'expiation de Yeshua. Les deux mènent à la vie, l'un à la vie humaine sur terre, l'autre à la vie spirituelle sur terre et dans les lieux célestes. Mais pour l'instant, seul le plus grand salut, celui appelé le prix de la vocation céleste de Dieu en Messie Yeshua, en Philippiens chapitre 3, verset 14, c'est celui qui est offert présentement. Il débute par ce qui est appelé un si grand salut qui, annoncé d'abord par Dieu, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Hébreux chapitre 2, verset 3. Le Messie Yeshua, appelé aussi Christ Jésus, a ouvert la voie. Et Hébreux chapitre 10, verset 20, une voie nouvelle et vivante par son sacrifice d'expiation. Il est devenu notre sauveur de la mort, celui qui a lancé l'invitation au grand salut. Paul fait à nouveau référence à ce grand salut dans le passage suivant à Timothée, à 2 Timothée chapitre 1, verset 9 et 10. « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en le Christ Jésus, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par la bonne nouvelle. » Le coût du plus grand salut, car il y a un coût, contrairement au salut offert au général, ce plus grand salut coûtera à l'appelé tout ce qu'il ou elle possède. Le simple fait d'avoir une bonne vie et une bonne morale, bien que ce soit très louable, ne sera pas suffisant pour obtenir ce prix suprême. Ce prix requiert une pleine consécration ou dévouement de soi-même et tout ce que l'on possède à la cause du Messie. C'est exactement ce que Yeshua veut dire quand il dit, Luc chapitre 18, verset 22, « Vends tout ce que tu possèdes. » Par contre, pour celui qui le fait, rien n'est vraiment perdu. Il ne fait qu'oublier les désirs de sa vie présente pour quelque chose de beaucoup plus précieux que Yeshua nommait un trésor dans les cieux. C'est le grand salut, l'héritage céleste appelé gloire et honneur et immortalité, la vie éternelle. Romains chapitre 2, verset 7. La haute vocation de Yahvé en le Messie Yeshua, quelque chose de très réel pour l'apôtre Paul. Il l'avait compris, cette valeur, et il n'en considérait pas le coût comme étant trop élevé quand il dit à Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il a volontairement échangé toutes ses perspectives terrestres pour des perspectives célestes beaucoup plus excellentes. Philippiens, par exemple, chapitre 3, versets 7 et 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et même je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner le Messie. Il recommandait à d'autres croyants et disciples du Messie de faire la même chose. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Combien en a-t-il qui ont ce genre de vie, qu'on peut voir ça dans leur vie, et qui se disent chrétiens ou croyants, ou comprenez-vous? Ceux qui aspirent au grand salut ne doivent pas se soumettre aux influences maléfiques de ce monde au risque d'être façonnés par elles, mais ils doivent se soumettre entièrement à la volonté du Tout-Puissant. Ce faisant, ils seront transformés dans leur esprit et leur caractère par une puissante influence céleste, l'Esprit de vérité, envoyé de la part du Père à ceux qui lui obéissent. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Ceux qui sont de la haute vocation sont sous la protection spéciale de Yahvé. Et nous lisons à leur sujet, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, ceux qui sont appelés selon sa volonté. Voyez-vous? La prospérité terrestre n'est pas promise automatiquement, mais chaque avantage spirituel est assuré à tous ces fils d'Elohim. Heureux sont ceux qui entendent et obéissent à l'appel de ce plus grand salut. Deux saluts offerts en deux résurrections. Comme vous avez pu le constater, il existe donc deux saluts, le salut en général et le meilleur salut. Existe-t-il d'autres preuves de ça? Eh bien oui, absolument, des preuves indéniables que probablement personne ne vous a encore montrées. Nous pourrions les appeler ces deux saluts la résurrection générale et la résurrection des élus. Cependant, la Bible a déjà défini la résurrection des élus qu'elle nomme la première résurrection. Et prenez vos Bibles, allez en Apocalypse, chapitre 20, et examinons les versets 4 et 5. « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent ceux à qui il fut donné de juger. » Verset 5. « Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Ouvrez votre Bible, c'est écrit là, noir sur blanc. Mais encore, pour bien appuyer les faits, poursuivons verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Écoutez bien la suite. La seconde mort, celle qui est éternelle, seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Encore une fois, la mention de salut en général s'applique à tous les gens du monde entier qui auront vécu, et cela comprend tous ceux qui n'ont jamais entendu parler du Messie, ni même seulement le nom de Yahshua de leur vivant, ou qui n'ont pas compris l'Évangile, ou qui ont été empêchés d'accepter Yahshua, le Christ, par le diable. Après les 1000 ans, appelés aussi le millénium, l'humanité entière, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu, finira par être relevés de la poussière de la terre lors donc d'une deuxième résurrection, puisque la première a déjà eu lieu 1000 ans avant. Et tous pourront enfin être enseignés dans la vérité, mis à l'œuvre pour son prochain et la communauté, et chacun jugé au cours de sa vie, tout comme pendant le règne millénaire de Yahshua. Au verset 5, rappelez-vous, « Le reste des morts ne ressuscita point, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Après la déflagration mondiale à laquelle mettra fin le Messie par la puissance de son avènement, il restera encore des vivants sur cette terre. Autrement, Matthieu chapitre 24, verset 22, « Si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. » Ce passage qui évoque exactement les mêmes événements que nous venons de voir dans Apocalypse, chapitre 20, versets 4 et 5, là où le Messie Yahshua établit son règne. À ce titre, nous ne pouvons que déduire que le processus de rétablissement qui sera établi pour l'humanité entière lors de la deuxième résurrection après le millénium ne sera que la continuation de ce processus qui aura certainement établi aussi pour tous les humains survivants de la fin de ce monde lors du retour du Messie ainsi que de leur descendance au cours du millénium. Vous pourriez vous demander comment tous ces gens peuvent-ils être ressuscités alors que le monde serait déjà tant surpeuplé? Et là, sans parler de la croissance démographique pendant le millénium, premièrement, c'est pourtant ce que dit la Bible, mais en second lieu, la Terre est énormément plus vaste qu'on ne le croit. Par exemple, saviez-vous que selon la superficie de, prenons exemple, Jacksonville en Floride, on pourrait donner à tous les êtres humains vivants sur Terre un espace de 3 par 2, 3 pieds par 2 pieds. Incroyable! Et presque chaque homme, femme et enfant dans le monde entier pourrait recevoir un acre de terrain au Texas. Parce que la superficie du Texas est de plus de 6 milliards d'acres. Et chacun, depuis Adam, sera ramené de la poussière du sol à la fin du millénium, après que Yahshua aura rétabli toute chose pour le grand jour du grand trône blanc. Quant à ceux qui auront part au meilleur salut, ceux déjà morts à l'avènement du Messie ressuscitent en premier, mais ceux encore vivants seront ensuite aussi, eux, transformés en un clin d'œil, en êtres glorifiés comme Jésus, avec des corps qui peuvent marcher sur terre, à travers la terre, ou apparaître et disparaître à volonté grâce à de grands pouvoirs multidimensionnels. Et ces pouvoirs leur seront utiles, car les élus seront les nouveaux grands maîtres du monde sous le règne du Messie Yahshua. Les rois et gouverneurs et hommes d'État et juges d'un ordre mondial nouveau, le royaume de Dieu annoncé, et non pas le nom, le nouvel ordre mondial que les hommes tentent d'instaurer par l'entremise d'organisations secrètes, conspirationnistes et sataniques, mais le grand royaume d'Élohim rétabli par Yahshua, prophétisé et promis depuis la fondation du monde. Le Messie règnera avec une verge de fer et le bâton du verger, et l'humanité n'aura plus à être dans la confusion pour connaître le véritable Dieu, car ce sera une époque où tous apprendront de lui. Allez dans votre Bible, dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. La symbolique des montagnes ici, c'est des gouvernements, des chefs, des paliers de gouvernement. Et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Et que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion sortira la loi, le Sion c'est le siège du trône de Dieu, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives forgeront des hoyaux, des instruments pour travailler la terre, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. À cette époque, un peu avant le millénium, le diable sera lié par une grande chaîne et finalement mis à l'écart de tout et de tous. Tous les hommes se verront offrir enfin une chance réelle dans ces jours prochains à leur résurrection et les élus vont avoir l'occasion d'enseigner aux nations à propos de l'œuvre de Yahshua, sans l'interférence du diable et des faux docteurs. Ceux de la deuxième résurrection pourront enfin faire un choix éclairé. Ceux qui choisiront la voie de Yahshua choisiront la vie éternelle, et ceux qui choisiront leur propre voie mourront pour la deuxième fois, car ils auront perdu leur chance de faire partie du royaume universel de Yahvé Elohim, le Créateur. C'est là ce que la Bible appelle la seconde mort, comme nous avons vu en Apocalypse chapitre 20, verset 6. Et à la fin du millénium, le diable sera relâché pour une courte période, voir s'il y aurait encore des hommes qui lui seraient restés fidèles, même après tout ce temps. Mais au final, le diable, la mort, le Hadès, hein, le séjour des morts, le mot grec Hadès, et tous ceux qui sont à lui seront engloutis et détruits dans un grand holocauste que la Bible appelle l'étang de feu et de soufre. Et plus rien de cela ne pourra plus jamais affliger l'humanité glorifiée. Yahshua et ses élus mèneront les habitants du monde vers la perfection. Et à la fin de son règne de 1000 ans, le Messie présentera et remettra un monde parfait à son Père, et nous ferons partie intégrante de ce nouveau monde merveilleux. Et je termine avec Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. »